Une opération politique, diplomatique et militaire.
Military operation.
There's been a feeling in Kigali that Rwanda.
Il y a un sentiment à Kigali que le Rwanda a le droit de déterminer ce qui se passe dans l'est du Congo et qu'il a le droit de s'approvisionner en minerais. Il a le droit d'être un acteur clé sur les plans stratégiques, commerciaux et politiques.
La guerre est malheureusement devenue un moyen d'accéder au pouvoir, car certains pensent que s'engager dans la guerre peut rapporter certains gains. Le monde est conscient de la richesse de cette nation, en particulier de la province du Nord Kivu. Différents acteurs cherchent à étendre leurs mains dans des régions riches en minerais, ce qui constitue un moteur des conflits au Nord Kivu.
Les individus qui font ces allégations incluent notamment les gouvernements du Congo, d'anciens militaires et des membres de la société civile qui déclarent ouvertement leur hostilité envers le Rwanda. De plus, certains groupes armés illégaux présents dans les forêts du Congo font écho à ces accusations, c'est ce qui est écrit dans les rapports.
Le Rwanda, comme nous cessons de le dire, travaille avec les M23 ou les créateurs du M23. Et les M23 est un mouvement réputé qui commet le massacre.
Je fuyais les rebelles et j'ai entendu un grand bruit, comme si quelque chose s'était cassé. Ensuite, j'ai réalisé que ma jambe était blessée et que les veines étaient coupées. Je ne pouvais pas marcher. Je suis tombée au sol. Quand j'ai regardé ma jambe, j'ai vu que la peau sur cette partie était complètement endommagée. J'ai dû utiliser mes vêtements pour envelopper ma jambe. Certains hommes m'ont remarqué et ont décidé de ne pas me laisser là. Ils m'ont porté et emmené à l'hôpital de Bambou. Et puis les médecins m'ont transféré dans un hôpital de Rutshuru, où ils ont collaboré avec des médecins étrangers pour m'apporter de l'aide. Ils m'ont aidé avec ma jambe en prélevant un peu de peau sur une autre partie de mon corps et en la greffant sur ma jambe.
Quand la guerre a commencé, c'était à 2h du matin. Nous avons commencé à entendre le bruit des armes à feu et des bombes. Ensuite, nous avons entendu des gens commencer à courir. J'étais enceinte et j'avais des enfants dont je ne pouvais pas courir la nuit. Mon mari a dit qu'il devait fuir parce que les rebelles recherchent toujours des hommes. Alors il s'est enfui et m'a laissée avec les enfants. Les rebelles sont venus chez moi. J'avais un petit magasin à l'extérieur qui vendait de l'alcool. Alors ils ont détruit ma porte et sont entrés chez moi. Ils m'ont trouvé avec mes enfants. Ils ont bu tout l'alcool là-bas et m'ont forcé à leur donner tout l'argent que j'avais. Ensuite, ils ont commencé à me violer. Ils m'ont prévenu que si je criais, ils me tueraient. Pendant qu'ils me violaient, ils ont détruit mon système urinaire et le bébé est mort à l'intérieur.
La situation est vraiment préoccupante au Nord Kivu en général. Une situation dans laquelle plus d'un million de personnes ont été déplacées au cours des derniers mois. Et cela dans un contexte où déjà un système de santé souffrait d'un manque de nutrition, un manque de soins thérapeutiques pour aider les enfants, un manque de ressources dans les centres de santé et dans les hôpitaux. Maintenant, avec toutes les personnes déplacées dans la région, la situation est devenue bien pire.
La majorité d'entre eux sont dans cet état depuis si longtemps qu'ils arrivent déjà faibles. Alors ils commencent en soins intensifs et au fur et à mesure qu'ils recouvrent leur force, nous les faisons passer à une autre étape de soins. Ces enfants sont en route vers leur établissement. Donc à partir de là, la plupart de ces enfants ont déjà commencé à retrouver l'appétit pour pouvoir se nourrir de noix dodues et ils sont déjà en bien meilleur état qu'à leur arrivée. Une fois qu'ils seront stables, nous les renverrons dans les camps, mais ils continueront les soins.
Mon enfant vomissait et avait la diarrhée et son corps était très chaud. Je suis allée à l'hôpital et ils m'ont donné des médicaments, mais ça n'a pas marché. Alors j'y suis retournée et ils m'ont envoyée ici. Ici, ils lui ont donné des médicaments.
Comment va-t-il maintenant?
Il va bien.
Qu'en dit le médecin?
Il souffre de sous-alimentation.
Ils sont malades dans les camps et on ne sait pas depuis combien de temps. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils sont au bord du gouffre. Nous faisons de notre mieux pour intervenir et nous leur prodiguons les meilleurs soins possibles. Mais parfois, il est trop tard pour eux et ils sont si faibles qu'ils ne peuvent pas tenir. Nous avons malheureusement perdu beaucoup de cas comme ça.
Quand des enfants mouraient, le chef du champ nous montrait où on devait enterrer les enfants. C'est ici que nous avons enterré les enfants décédés. Vous voyez ici, il n'y a pas de terre. Donc, quand quelqu'un meurt, ils viennent enlever ses pierres et ils mettent les corps ici. Et mettent des pierres dessus. Et c'est comme ça que nous enterrons le corps.
Mon voyage a commencé quand nous avons entendu beaucoup de coups de feu et nous a fallu 4 jours pour arriver à ce camp. En chemin, nous avons dormi dehors. La pluie tombait sur nous. Nous avons beaucoup souffert. J'avais un enfant sur le dos, un autre sur mon cou, et les autres marchaient. Leurs jambes étaient enflées. Quand nous sommes arrivés au camp, nous n'avions pas de tente. Donc, nous avons dormi dehors sans nourriture à manger. Ensuite, le CICR nous a aidés avec la tente. Mais ça fait 2 mois et ils ne nous ont rien donné. Nous n'avons toujours pas de nourriture et nous avons faim.
La paix est ce dont nous avons besoin. Nous avons d'abord besoin de paix. Même si vous les nourrissez, s'il n'y a pas de paix alors qu'il n'y a rien, toutes ces gens que vous voyez ici cultivés chez eux, ils mangeaient des légumes, des pommes de terre et d'autres aliments. Ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous aider à avoir la paix pour que ces gens puissent rentrer chez eux. S'ils rentrent, ils seront en sécurité. Mais s'ils sont toujours ici, il y a des maladies. Il y a de la diarrhée, du choléra, de la rougeole, de la fièvre, de la toux, parce qu'ils vivent dans une zone encombrée.
Maisha wanayoyaishi ya msongamano. Selon le plan de réponse humanitaire, 26 millions de personnes sont dans le besoin en RDC en 2023 et le plan de réponse humanitaire couvre seulement 10 millions de personnes en 2023. En 2022, c'était de 8,8. La crise s'aggrave. Nous avons donc besoin d'attention.
1, 2, 3, c'est parti.
Auditeurs de GoFM, bienvenue dans votre émission Droits des femmes, diffusée quotidiennement sur Go Radio FM. L'émission se concentre sur les droits des femmes. À mes côtés, Natacha Sekeraviti et Passi Mubalama, une militante des droits des femmes.
Nous entrons dans les camps afin de pouvoir engager des discussions avec la communauté sur la manière de protéger les droits des femmes et des enfants. Est-ce que tu vas chercher du bois avec ta mère? La tâche que nous entreprenons actuellement est d'encourager les femmes qui ont été violées à se manifester et à s'exprimer. Souvent, elles restent silencieuses et s'abstiennent de partager leurs expériences. Notre objectif est de les inciter à s'ouvrir et à démontrer qu'en gardant le silence, ceux qui commettent ces actes contre les femmes échappent à la justice. La prise de parole permet d'apporter une aide, comme un soutien mental et l'accès à des médicaments pour se protéger contre diverses maladies et grossesses non désirées.
Non seulement contre mais
Alors que je cherchais du bois de chauffage, j'ai rencontré quelqu'un devant moi. J'ai continué à ramasser le bois, mais il m'a demandé d'où je venais. J'ai dit que j'étais juste en train de ramasser du bois de chauffage. Il a ensuite dit que si je n'acceptais pas ses exigences, il tuerait mon enfant. Il a ensuite dit que j'avais de beaux bébés et que je pouvais lui en donner un. Je lui ai demandé de faire preuve d'empathie, mais il a continué. Une altercation physique s'en est suivie, au cours de laquelle il m'a maîtrisé par la force. Il a commencé à faire ce qu'il voulait jusqu'à ce qu'il ait fini. J'ai pleuré pendant longtemps. Je ne suis plus retournée ramasser du bois de chauffage. Après, j'ai repris la route vers le camp. À mon retour, mon mari m'a posé des questions sur le bois de chauffage, mais j'ai répondu que je ne pouvais pas continuer à ramasser du bois à cause des fortes pluies.
C'est ce que nous avons constaté lorsque nous sommes arrivés dans cette zone et nous avons commencé à répondre aux besoins urgents que nous constations dans les centres de santé, dans les hôpitaux. On nous a dit que les cas de violence sexuelle avaient plus que doublé, triplé, parfois quadruplé dans certains de ces centres. C'est donc extrêmement préoccupant. Et cela, bien sûr, dans un contexte où toutes les femmes ne savent peut-être pas qu'il existe des services qui peuvent les aider en matière de violence sexuelle.
Je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Aujourd'hui, je partage avec vous cette douloureuse expérience pour mettre en lumière les adversités que nous subissons dans cet environnement difficile. Comment allons-nous continuer à vivre ainsi?
Le gouvernement congolais n'a pas réussi à assurer la sécurité de ses citoyens. C'est ce que je ne comprends pas.
Dans ce pays, la situation sécuritaire est un défi majeur dans une nation aussi grande. C'est même l'une des plus importantes opérations de grande envergure au monde. Eh bien, pas de repli ici depuis plus de 10 ans.
«
La MONUSCO est complice de tous les conflits en cours en République démocratique du Congo.
La population est en colère. Ça fait 22 ans de tuerie. Aujourd'hui, les gens disent qu'il faut que la MONUSCO s'en aille. On en a marre de tuerie.
Les gens se demandent depuis longtemps que fait la MONUSCO. Que fait-elle? Les rebelles tuent à côté des camps de la MONUSCO. Donc les gens se demandent quel est leur travail.
La MONUSCO est devenue pour nous un problème de sécurité. Là où elle devait être la solution, elle devient le problème. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous organiser sur chaque site de la MONUSCO d'avoir des policiers, sur chaque véhicule qui roule. Mais tout ça, ça nous pose un problème. Lorsque vous avez le secrétaire général des Nations Unies, lui-même, Antonio Guterres, dire qu'ils ne sont pas en mesure de combattre les M23, qui est considéré comme la principale source de l'insécurité dans cette partie du pays, il y a un problème.
La MONUSCO affirme que 80% des armes utilisées par le M23 proviennent des forces armées congolaises. Il est intéressant de noter que même si ces informations sont véhiculées, elles n'en parlent pas explicitement. Au lieu de cela, on veut faire croire que les armes proviennent du Rwanda.
Comment pouvons-nous encore contribuer à la stabilisation et à la paix ici dans l'est de la RDC? Comment il est possible qu'il y ait une présence massive de troupes ici dans ce pays et que des gens meurent encore parce que, pour certains d'entre eux, la tâche principale de la nouvelle pensée est d'engager les groupes armés. Mais ce n'est pas vrai. Le mandat est d'assurer la protection des civils.
On a besoin d'une mission plus efficiente, plus proactive, qui puisse être en mesure de gérer les problèmes de sécurité qui sont bien connus. Et donc, à partir de 2023, on va commencer les processus de retrait. Ça fait quand même 21, 23 ans qu'ils sont là. Et quand les résultats ne viennent pas, ça sert à rien de se cramponner sur une mission dont on sait qu'il ne pourra pas atteindre les résultats dans la forme actuelle.
Le problème, c'est que c'est le gouvernement congolais qui ne veut pas la paix. Nous leur avons demandé de nous ouvrir une voie, mais ils ont refusé. Nous leur avons demandé de s'asseoir et de discuter avec nous, et ils ont refusé. Nous avons demandé aux réfugiés de venir ou retourner chez eux, mais ils ont refusé, et ils ont semé encore plus de confusion. Le problème, c'est le gouvernement congolais qui ne veut pas de la paix. Nous voulons que les gens rentrent chez eux et nous aimons les gens.
Il y a quatre causes principales à la guerre. Premièrement, il y a ceux qui veulent avec force la nationalité congolaise. Deuxièmement, il y a ceux qui cherchent une terre pour vivre, des terres pour cultiver et élever leur bétail. Troisièmement, il y a ceux qui recherchent le pouvoir. Ils utilisent la force et tuent des gens pour obtenir cela. La guerre est devenue une étape pour accéder au pouvoir. Ils savent que s'ils mènent une guerre, ils obtiendront ce qu'ils veulent. La quatrième raison est connue du monde entier. Le pays est riche, notamment l'État du Nord Kivu. Tout le monde veut mettre la main sur les minerais et c'est la raison de ces guerres au Nord Kivu.
Listen.
La raison pour laquelle certains problèmes ont surgi soudainement, apparemment de nulle part, après 10 ans de calme sur ce front, c'est parce que Kagame a vu Félix Tshisekedi le contourner pour devenir un acteur en Afrique de l'Est sans passer par lui. Cela signifie que Félix Tshisekedi et la RDC a été accueilli au sein de la communauté est-africaine. Je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle le M23 devient soudainement un acteur majeur sur la scène, parce qu'il est en fait Paul Kagame qui dit au Congo, mais aussi au reste de l'Afrique centrale et au reste du monde, vous ne pouvez pas m'ignorer. Je dois faire partie du tout accord que vous concluez, et si vous ne m'incluez pas, je causerai des problèmes.
Il est facile de rejeter la faute sur le Rwanda. Un bouc émissaire commode pour ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui aspirent à diriger. Cependant, utiliser le Rwanda comme excuse ne change rien aux réalités sur le terrain. Ce problème récurrent persiste faute de progrès concrets.
La solution la plus évidente est une forme de sanction. Et ce que nous avons vu, c'est que tout récemment, nous avons assisté à des tentatives plutôt édulcorées de sanctions de l'UE.
En juillet, elle a publié une liste de 7 hommes qu'elle souhaitait sanctionner. Certains de ces hommes font partie de milices armées dans l'est du Congo. Certains d'entre eux faisaient partie du M23. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ces hommes sont responsables des effusions de sang, des viols et des turbulences massives que nous observons dans l'est du Congo. Mais le problème est de savoir pourquoi ils restent à un niveau aussi bas. Nous savons que la chaîne de commandement remonte bien plus haut. Et ceux qui en paient le prix, bien sûr, ce sont les Congolais. Nous constatons qu'1 million de personnes ont été déplacées depuis mars 2022. Ils paient donc un prix très élevé.
Ces sanctions ne visent pas l'ensemble du Rwanda, mais des individus spécifiques. Le Rwanda a déjà fourni des explications à ceux qui ont rédigé le rapport sur ce qui n'a pas été pris en considération. Par ailleurs, rien ne peut dissuader le Rwanda d'expliquer la situation du militaire sanctionné, notamment aux États-Unis d'Amérique, qui ont imposé ces sanctions.
Je pense que le gouvernement congolais doit faire tout pour trouver une solution. Je ne sais pas s'il négociera avec le Rwanda ou avec le M23 parce que le gouvernement a refusé de négocier avec eux. Mais pourquoi refusons-nous de négocier alors que des gens continuent de mourir?
Ce n'est pas ça que les Congolais méritent de vivre dans leur propre pays. Et donc, la solution, c'est d'obtenir que ces Congolais oui, puissent rentrer chez eux. C'est pour ça que, justement, nous faisons des pressions pour qu'à travers la diplomatie, nous puissions obtenir les résultats, que ces Congolais rentrent chez eux.
Le Rwanda est fermement convaincu que la voie du règlement des conflits avec les pays voisins passe par le dialogue pacifique et se dit pleinement préparé à de telles discussions.